Bonjour chers amis auditeurs, voici la deuxième émission de Avoir Château dans le Lot et nous sommes toujours à Sennevières, au château de Sennevières, en compagnie de monsieur et madame de Braquilange, donc Patricia et Patrick, bonjour.
Bonjour
à nouveau. Marie-Madeleine qui est en train de visiter parce que nous sommes dans le grand salon.
Le grand salon.
Voilà. Nous sommes dans le grand salon, donc nous avons vu la semaine dernière, Marie-Madeleine, bonjour,
bonjour,
je vous vois revenir. Nous avons vu la semaine dernière le contexte historique, et là nous rentrons dans le vif du sujet qui est la visite guidée radiophonique du château de Sennevières, et là nous nous trouvons dans le grand salon. Patrick.
Voilà, alors bienvenue dans cette visite radiophonique. Ce grand salon, c'est la pièce la plus importante du château, la plus grande, 110 mètres carrés. Et elle a une particularité, c'est que nous avons découvert, tout à fait par hasard, en 1973, les peintures que vous voyez actuellement sur le plafond et sur les côtés. Alors c'est une pièce qui me tient à cœur parce que c'est là que j'ai rencontré ma future fiancée.
Ah, très bien.
Qui venait visiter et avec un de ses cousins. Et j'étais pendu sur une échelle pour faire apparaître le dessin qui est juste sur l'entrée avec des tas de croissants partout. Mm-hmm. Et il s'agit en fait de peintures qui décrivent oui, la ville de Constantinople, c'est-à-dire Istanbul. Avec, je vous cache pas, quand on a découvert ça, tout ça était plâtré, caché. Ça a été fait sans doute vers 1850. Pour réduire le volume de la pièce et couper les courants d'air. On a profité pour enlever les dalles en pierre et mettre des planchers en noyer, comme on a mm-hmm. beaucoup dans le Lot. Mm-hmm. Mm-hmm. Et alors voilà, j'étais sur mon échafaudage. Et puis.
Et vous avez rencontré Patricia.
J'ai rencontré Patricia qui me posait la question en disant, ben on se croirait à la chapelle Sixtine. Alors je lui dis, ben c'est moi Michel-Ange. Alors elle a trouvé que c'était un beau parti et c'est comme ça qu'on s'est.
Alors
qu'on
Patricia,
s'est connu.
Vous avez tout compris.
Alors donc, vous parliez justement de peintures que nous apercevons, mmh. peintures murales, voilà. qui sont magnifiques dans des tons ocre, nous,
ouais.
hein, sont
ocre et carmin,
voilà.
c'était les deux principales, du noir aussi, beaucoup mmh. de beaucoup mmh. de fusain, mmh. et les dessins qui sont apparus nous ont vraiment étonnés parce que une cartouche, si vous voulez, un dessin qui représente une ville, c'est sympa, mais là j'ai 23
oui,
dessins, et chaque fois c'est Istanbul par tous les bouts. Alors
oui,
on voit des croissants partout, la ville donc d'Istanbul, le quartier de Galata, mm-hmm. Tour Galata, la cathédrale Sainte-Sophie, créée à l'époque par Constantin, donc on est en 353, je crois, quelque chose comme ça, et que Erdogan vient de nous rebaptiser en mosquée, ce qui est quand même assez gonflé. À côté, c'est le Topkapi, qui est le palais mm-hmm. de
oui.
l'empereur. Et puis, la mosquée Souleymanienne. Donc, il y a tout un dessin qui est fait là. Et alors, ça m'a surpris quand on a découvert ça, parce que, évidemment, les liens entre le Lot, notre Quercy, et le Moyen-Orient, ça paraissait pas évident. Et puis, il se trouve que dans ma bibliothèque, eh bien, en feuilletant, par hasard, on a trouvé une histoire des Turcs.
D'accord.
Et donc, c'est Madame de Gourdon qui habite ici dans les années 1560. Je vais en dire un mot tout à l'heure. Qui avait un esprit culturel qui est celui de la Renaissance, l'humanisme, l'apprentissage, le développement intellectuel qui peut se faire par l'accélération de la création des universités et grâce à Gutenberg qui va nous permettre d'avoir des idées qui circulent parce que les livres sont imprimés. Vous savez qu'en 50 ans, entre 1453 et 1500, il y a une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps par des étudiants de Heidelberg, l'université mmh. allemande. Ils sont allés ausculter qu'est-ce qui avait été imprimé pendant ces 50 ans dans une cinquantaine de grandes maisons d'imprimerie en Europe. Et ils sont allés compter le nombre de livres vendus. Eh ben, on a sorti quelque chose comme 25 millions de livres. 2,5 millions de livres, pardon, qui ont été vendus en 50 ans. Ce qui veut dire que le savoir se démocratise. C'est pas le livre de poche à 3 euros, c'est plus que ça, mais ça existe quand même. Donc voilà, ça a été fait.
Alors, on aperçoit, bien, vous disiez, il y a à peu près une vingtaine de peintures que vous avez pu relever, mais j'en aperçois, est-ce qu'il y a sous certains panneaux des peintures qui existent
oui,
toujours?
Oui, elles sont là. On a eu des débats avec les monuments historiques pour savoir si on restaurait ou pas. Il y a plusieurs écoles, on s'est pas battu là-dessus parce qu'on voulait surtout restaurer les toits. Ça fait partie des sujets avec mes frères et sœurs qu'on regarde pour au moins restaurer et faire réapparaître ce qui n'a pas disparu. Il y a des endroits où les cartouches de supports en plâtre sont tombés tellement il y avait d'inondations. Et pour le reste, c'est juste redessiné. On trouve l'hippodrome, on trouve des peintures. Il y a vraiment tout.
Et donc, avant de redescendre un petit peu sur ce qu'il y a dans la pièce, également le plafond qui est absolument magnifique.
Voilà. Alors, c'est ce qu'on a vu en premier avec ces tulipes. Alors, tulipes, on pensait aux Pays-Bas. Ben, figurez-vous que non, la tulipe, c'est une fleur qui est originaire de Turquie et c'est un cadeau que Soliman le Magnifique va faire à Charles Quint, et qui à l'époque a toute l'Europe centrale, y compris les Pays-Bas. Donc tulipe, Hollande, oui d'accord, mais enfin c'est la Turquie d'abord. Je peux me permettre de rajouter un petit mot. Pourquoi ce sujet est-il sur la table, la Turquie ici? Eh ben, le contexte géopolitique est très intéressant parce que ça nous amène à ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient. C'est quand même dingue. Eh bien, regardez l'histoire. En 1536, Montfrançois Ier, qui est un peu seul, il a été battu à Pavie en 1525, il n'en peut plus, et il respire, et pour respirer, il faut qu'il fasse un traité avec Soliman, qui a tous les territoires. Vous regardez une carte de l'Europe, vous partez de la Roumanie, vous passez à Istanbul, vous faites Israël aujourd'hui, l'Égypte, tout le bassin méditerranéen jusqu'au Maroc. Tout ça appartient à l'empereur turc. Donc François, pour essayer de se refaire contre Charles Quint, va signer un traité qui s'appelle traité des capitulations, et ce traité va s'arrêter à la fin de la guerre de 14, c'est le traité de Lausanne en 1923. Et l'artisan de la fin de ce traité, c'est un espion, les jeunes connaissent OSS 117, eh bien, il s'appelle Laurence d'Arabie, et quand vous écoutez l'histoire de Laurence d'Arabie, il dit, on le voit dans le film et ça se lit dans son bouquin, il reproche aux tribus arabes de se taper dessus depuis des siècles au lieu d'essayer de faire comme ça venait de se réaliser en Amérique, les États-Unis fédérés des pays arabes. Laurence d'Arabie leur demande ça. Et ensuite, on va, avec les Anglais, se partager le Moyen-Orient et la France récupère un protectorat sur la Syrie, l'Irak et le Liban. C'est pas rien. Donc on connaît parfaitement cette zone. Vous voyez, c'est un bout d'histoire important.
Tout à fait. Alors, donc, nous revenons sur les tulipes et sur le plafond. On peut définir les couleurs, à peu près quelles couleurs?
Alors, la dominante, c'est du carmin, le rouge, un peu. Après, on a des tons de jaune et du vert. C'est à peu près ça. Quelques taches de bleu. Et toutes ces poutres ont été magnifiquement peintes et c'est fait au pochoir. Hein, parce qu'il y en a beaucoup.
Oui.
Ça coûte cher de faire venir un artiste italien. Il faut des produits. Et le seigneur de Gourdon va mettre tous ses moyens dans cette salle qui, je le rappelle, pour les plus jeunes, même chez le roi de France, dans les châteaux de la Loire, j'étais cet été encore avec nos petits-enfants à Chambord, vous n'avez pas de salle à manger parce qu'on perd son temps, on déjeune à 2h à midi, 2h le soir. Qu'est-ce qu'on fait? On dressait les tables. Donc la pièce est grande, on vous amène des vieilles planches, on met une jolie nappe, des bougies, et puis surtout de quoi bien boire et bien manger, et puis c'est bon. Et après, on dégage. Et donc, c'est dans cette pièce que monsieur et madame de Gourdon recevaient leurs amis. Et si vous avez 2 secondes, je vais vous lire un tout petit poème.
Ah, mais avec grand plaisir, nous allons nous y rendre. Donc c'est une très grande, effectivement une très grande pièce.
Ouais.
Nous allons en parler tout à l'heure. Il y a quelques armoires, il y a quelques coffres, table magnifique. Il y a également quelques tentures et quelques tableaux. Et au-dessus de la cheminée, il y a un écusson.
Oui, alors c'est celui de la famille de Gourdon.
D'accord.
Hein, qui a été ici le plus longtemps, si vous voulez, donc en gros entre 1300 jusqu'en 1615. Eux qui ont fait ces travaux de la Renaissance et qui ont dessiné quelque chose.
Donc nous allons vers l'endroit alors, où vous voulez nous lire un passage.
Je vais vous montrer un tout petit texte que j'ai découvert. Il n'y a pas très longtemps, je me suis permis de le recopier. Au moment de la Renaissance, on a sur le plan littéraire un mouvement qui s'appelle le cercle de la Pléiade. Hein, les grands Ronsard, Du Bellay, tout ça, s'écrivaient des poèmes et on courtisait les dames avec des textes, etc. Bon, mais parmi les promoteurs de ces idées, et localement, vous avez 2 garçons qui sont importants. Un qui est très connu, qui s'appelle Clément Marot, qui est né à Cahors, et l'autre un peu moins, qui s'appelle Olivier de Magny, qui était un poète. Les deux sont universitaires. Clément Marot avait quand même la caisse du roi de France pour aller acheter des bouquins partout en Europe. Hein. C'est lui qui a développé la bibliothèque. Bon.
Très bien.
Regardez ce que nous dit Olivier de Magny. Il écrit à Marguerite de Cardaillac, qui possédait le château de Saint-Cyr-la-Popie. Elle est donc vicomtesse de Gourdon. Et en 3 mots, 3 vers, il va valoriser cette personne et vous allez comprendre pourquoi on s'intéresse à la culture générale. Il lui dit « Madame, entretenant quelqu'un très bien, vous devisez l'espagnol, le français et le tuscan, c'est-à-dire l'italien. Vous les lisez et savez très bien les entendre et les lire et les comprendre. » Donc ma petite madame de Gourdon, née Cardaillac, elle parle l'espagnol, le français et l'italien. Vous rajoutez l'occitan, ça fait 4 langues, puisque c'est la langue de tout le monde. Et comme elle s'embête, elle fait comme Olivier de Magny et Clément Marot, elle va à l'université de Cahors, licenciée en latin et grec. Donc j'ai ici, en 1560, une petite dame qui a jamais mis les pieds en Turquie, mais qui parle 6 langues. Ben, si je fais un sondage aujourd'hui sur Facebook, je suis pas sûr qu'on trouve beaucoup
non,
de
Non, je ne pense pas. Nous, déjà 6. Ici, enfin, moi personnellement. Alors, tout à l'heure, je parlais donc de ce que nous voyons autour sur les murs. Oui. Donc, nous avons les tableaux, nous avons des tentures. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots?
Oui, alors, les tableaux, ça vient des différentes maisons au fur et à mesure. Mon frère vient d'acheter un petit tableau, qui représente de nos ancêtres, mais côté maternel. Vous voyez, donc c'est un exemple. On rajoute comme ça des choses.
Mais oui.
Les tapisseries, il en reste 4 aujourd'hui. Avant les partages des familiaux avant la guerre de 14, il y avait ici quelque chose comme une quinzaine de panneaux qui ont été soit transférés aux frères et sœurs de l'époque, soit vendus pour faire des travaux. Donc c'était très fréquent autrefois, et ça aussi, vous retrouvez d'ailleurs dans toutes nos tapisseries, mais c'est vrai régulièrement, le ton de bleu qui est là-dessus, pour les plus anciennes, ce bleu il est fait avec notre pastel d'Occitanie, le pays de Cocagne, hein, ça vient de là.
Tout à fait.
Et donc ça va décorer les pièces.
Marie-Madeleine.
On connaît la manufacture de...
Alors j'en ai 2 ici qui sont de 1480, ça vient de Oudenaarde.
Oui.
C'est une belle place dans les Flandres aujourd'hui, entre Lille et Bruxelles. Et les 2 autres, c'est des tapisseries qui viennent de
Beauvais.
Ah oui, d'accord. Voilà.
Bien, donc des écoles un peu différentes.
Ouais.
Marie-Madeleine, je sens que vous voulez dire quelque chose de particulier.
Alors, je voudrais revenir à la cheminée, puisqu'il y a un blason. On voit un blason.
Alors celui d'en bas, c'est des Gourdons.
Voilà, et au-dessus, tout à fait à la frise sommitale, là.
Alors, ce petit blason, c'est un tout petit blason.
Que nous apercevons vraiment pas tout de suite. Hein.
C'est un indicateur pour un code, si vous voulez. On pourrait dire aujourd'hui un code vestimentaire, on a une cravate. Ça signifie qu'on appartient au même club intellectuel. Et celui qui est ici signale à tous les gens qui rentrent dans cette salle que dans cette maison, on s'intéresse à l'alchimie.
Et nous apercevons en dessous un tableau qui est un petit peu sombre.
Oui. Alors ça date, je crois qu'il est signé en 1750. Et j'avoue que je crois aussi que ça vient des Flandres par là-haut, du côté de
Marie-Madeleine, est-ce que
non, c'est le repos pendant la fuite en Égypte.
Oui, exactement.
Voilà. Oui.
Il y a qu'une date, je sais pas l'origine.
Oui, ça peut être flamand, oui.
Ouais.
Flamand, oui.
Ou Europe du Nord, peut-être pas typiquement
oui,
les Flandres.
Oui, oui.
Voilà. Très bien. Nous apercevons d'ailleurs une table.
Un écritoire, oui.
Voilà.
Alors,
superbe.
Ça, regardez, c'est lié avec les livres. Si vous voulez, on s'avance vers la bibliothèque.
Alors, nous allons vers la bibliothèque qui se trouve dans la même salle. Voilà. Très belle bibliothèque avec des livres magnifiques.
Alors, justement, sur les livres, hein, c'est très important pour comprendre la Renaissance, le partage et la diffusion des idées. Avant l'invention du sieur Gutenberg, si je ne vais pas sur place ou si je ne croise pas l'auteur, je ne sais pas ce qu'il va me dire. Tandis que là, vous avez un exemple, il y a une cinquantaine de vieux livres qui parlent de tout. Hein. Il y a de l'histoire, il y a de la philosophie. Mm-hmm. Quand j'arrive pas à m'endormir, je retire un livre qui s'appelle « Traité d'astronomie de Galilée
oui. »
et au bout de 4 pages, je m'endors parce que c'est très compliqué. Et alors, donc, ça fait partie de la culture du château.
Mm-hmm.
Et regardez juste en dessous, vous verrez un manuscrit. Eh bien, ce manuscrit... J'allais dire, ça me fait une belle jambe, parce que je suis le seul à l'avoir.
Ah.
Eh ben oui, parce que si ça vous intéresse, il n'a pas été imprimé, il est fait à la main. Donc vous allez vous payer un scribe et un lecteur pour réécrire tout ça sur vos propres papiers. Ben vous en avez pour 3 mois.
Oui, parce
avec
que...
le risque aussi de mauvaises interprétations,
tromper, voilà.
Soit volontaires, soit involontaires. Mmh. Vous voyez, s'il y a une phrase où il nous dit « il faut faire ça », eh ben si je vous dis, parce que je suis pas d'accord avec le texte, moi je suis le lecteur, vous dites « il faut surtout pas faire ça », ben vous allez marquer « il faut surtout pas faire ça », et résultat, vous partez avec l'inverse de ce qu'a voulu dire l'écrivain. Mmh.
Alors nous parlons d'un livre qui est l'histoire de France totalement manuscrite, s'arrêtant à Charles IV le Bel.
Voilà, donc, 1322, à la fin j'ai une date, 1400 et quelques, hein, il a été fait.
Donc parchemin et papier,
voilà. Vous voyez, il faut le transporter chez vous pour que vous puissiez le lire, et encore faut-il que vous sachiez lire.
Et oui,
vous voyez, la diffusion, c'est fort. Hein.
Donc je disais qu'il était en parchemin et papier avec une reliure en aire de bœuf.
Ouais.
Couverture en bois et fermoir en or.
Fermoir en or, c'est typique,
que...
hein, c'est du fin 14e, début 15e.
Juste
c'est
avant
vraiment avant l'imprimerie.
Juste avant l'imprimerie.
Mm-hmm. Ah oui, il y a beaucoup, enfin il y a quelques écrits manuels.
Oui. Alors ces écrits, c'est que maintenant c'est important, ça peut être déposé en prêt aux archives départementales.
Mm-hmm.
C'est très intéressant si ça se fait. Je pense qu'on va le faire nous. Également parce que dedans, c'est du manuscrit, donc personne d'autre l'a vu, sauf vous quand vous êtes devant.
Mmh.
Mais si ça devient numérisé, il y a peut-être 50 personnes qui vont retrouver à l'intérieur des dates, des noms, des histoires qui n'ont pas été écrites. Hein, c'est des petits papiers, vous pouvez en avoir dans votre propre bibliothèque, la lettre de la grand-mère, à la limite, il y a des choses quelquefois un peu confidentielles, mais il y en a qui intéressent les gens.
Mm-hmm.
Par exemple, le jour où il y a une grande crue dans le Lot, le moulin a été détruit, ou alors le pont qui traversait, vous voyez, des faits que des témoins pourraient simplement raconter. Donc c'est, pour moi, l'imprimerie, c'est le début du partage. Alors, vous voyez les excès auxquels on arrive aujourd'hui, parce que chaque fois qu'on écrit une bêtise, elle est diffusée partout dans
Oula,
le monde. Hein.
Oui, effectivement. Alors là, nous sommes devant cette belle bibliothèque, et nous avons parlé des peintures, nous avons parlé du plafond, nous avons parlé de la cheminée, des écrits de la bibliothèque, des tentures. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Il y a de très beaux meubles.
Oui,
dans
alors dans les meubles qui sont là, le plus intéressant, c'est cette grande desserte d'époque Renaissance, et ça fait partie du show dans lequel, que les propriétaires voulaient mettre en scène L'accueil, mmh, hein, c'est mmh. là-dessus que, ben, en rentrant de la chasse, on a attrapé un joli cerf ou un joli sanglier, on le mmh. met là-dessus, tout le monde le voit, puis après on s'assoit, on boit un coup et on dîne ensemble. Vous voyez, mmh. c'était mmh. le la mise en scène, on peut dire ça. Mmh. C'est typique, hein, des 450, sans doute pas fait dans le Lot, mais c'est pas impossible. Et après, le reste, c'est plutôt des, ça, c'est des copies du 19e, c'est le style Henri
II. Au niveau
II.
Des chaises,
il y
oui.
Il y avait beaucoup mm-hmm. dans, beaucoup de visiteurs me disent, tiens, j'ai le même chez, chez la grand-mère. Eh ben oui, parce que c'était à la mode, hein, c'est.
Et oui, donc.
On peut pas s'empêcher, chacun, dans sa maison, vous la modernisez, vous la dessinez, vous la meublez avec ce qui vous plaît. Mm-hmm. C'est pas forcément les mm-hmm. antiquités, inabordables, c'est ce que vous trouvez, sur place.
Oui, parce que, mm-hmm. au 16e siècle, les seuls meubles qui existaient, c'était les coffres pour les
oui,
transporter.
Tellement.
Pour les transporter.
Absolument.
Dans les...
Vous voyez, là, c'est un autre coffre de la Renaissance. Oui. Vous avez encore les poignées à côté. Mettez ça sous les chariots. Et avant que je parte en voyage, oui. parce mm-hmm. que si, la... si je fais pas ça, à l'arrivée, j'ai rien du tout. J'ai pas de quoi me changer. Donc, 3 jours avant, on faisait partir un chariot pour aller à Limoges mmh, ou à Bordeaux, mmh. et puis ça mettait ben, la vitesse de,
oui, oui.
d'un,
et oui,
d'un
et
cheval.
Oui, oui, hein. oui. Donc, nous apercevons dans une autre oui. grande armoire, nous nous dirigeons d'ailleurs, une armoire un peu plus petite que celle de la bibliothèque,
voilà.
Une vitrine, on va dire. Nous apercevons un certain nombre d'éléments à l'intérieur.
Voilà, alors là, c'est des objets un peu plus récents, mais qui sont quand même intéressants. En dehors de la Légion d'honneur de mon arrière-grand-père,
mmh.
un petit coffret à pistolet quand même, parce que de temps en temps sur la route on se faisait agresser. C'est plus le cas aujourd'hui, vous êtes d'accord. Bon, on avait des armes à feu dans son sac, des petits éventails pour le théâtre.
Mmh.
Et regardez, le plus intéressant, le plus ancien, c'est ce petit boîtier là-bas qui servait à peser les pièces pour s'assurer qu'on fasse pas de la fausse monnaie.
Voilà. Que les pièces, c'est le bon alloi.
Exactement, le bon alloi, c'est
le bon poids d'or.
Exactement. Mm-hmm. Et il y avait la, la bascule qui va avec. Et c'était un privilège, en fait. On avait ça, on avait des contrôleurs, on va dire. Par exemple, les jours de foire. Dans les villes, le type se mettait à côté, et ça voulait dire, cette pièce-là que vous me donnez, elle est pas, ça, elle, elle vaut pas son pesant d'or.
Mm-hmm.
C'était et ça.
Nous apercevons un portrait de Jeanne d'Albret.
Ah, ben oui, hein oui, c'est une copie, hein, c'est pas l'original,
oui, oui, oui,
mais
oui, oui.
Jeanne d'Albret, donc, qui est la mère de, d'Henri IV, Henri de Navarre à l'époque, et qui va venir avec son petit cheval de Nérac, et elle va venir, essayer de séduire au sens politique le seigneur de Gourdon
mm-hmm.
en lui disant, dites donc, voilà, si demain le fiston devient roi, peut-être que vous aurez une médaille. Et en gros, elle faisait sa campagne politique et sur son petit cheval ou derrière elle, il y avait un chariot de Bible qui permettait de préparer sa, sa conversion. On peut dire un tout petit mot sur le carnet de balles en ivoire.
Oui,
il y en
oui,
a
oui.
deux qui sont là.
Oui, oui, effectivement.
Et alors, ça, c'était très chic, c'est 18e, hein, c'est, mais c'est vraiment sur de l'ivoire. Et ça permettait à ces dames, à l'époque, de marquer le nom des garçons qui venaient les inviter à danser. Aujourd'hui, c'est un peu différent, d'après ce que je sais. Il y a longtemps que je suis plus allé au bal. Et alors, très souvent, les jeunes filles mettaient ça et elles avaient quelquefois la tête ailleurs, si je puis dire, et elles oubliaient d'effacer le nom des prétendants.
Mm-hmm.
Alors, quand on voit marqué 4, 5, 6 fois Patrick, la maman, quand elle rentre, hein, pour se coucher, qu'est-ce que c'est ce Patrick? Raconte-moi. Vous voyez, donc, je recommande à toutes les jeunes filles de bien effacer le nom des... Le nom des danseurs.
Et il y a le petit crayon.
Et il y a le petit crayon.
Oui, 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 qui est à même le petit...
Les carnets de balles.
Petit éventail, petit carnet.
Il y a aussi un bracelet
oui.
avec des médaillons sculptés.
Oui, oui, oui. C'est des pierres, j'avoue que je sais plus ce que c'est. C'est de la fin du 18e, début
C'est un grand bracelet,
19e.
D'ailleurs, effectivement.
Oui,
très
oui, assez fort.
Oui, oui, tout à fait.
Des petits flacons de sel au fond, parce que de temps en temps, surtout quand on allait au spectacle... Oui, on s'aérait un peu avec les éventails, et aussi parce qu'on avait chaud, et donc on donnait les selles.
Eh bien, merci pour cette première visite guidée du château de Sennevières, donc à l'intérieur, bien sûr. Nous terminons cette deuxième émission. Avec grand plaisir, nous allons vous retrouver, Patrick, la semaine prochaine en compagnie de Marie-Madeleine. Je vous dis au revoir. Et puis en compagnie de Patricia, mais Patrick, comme il y a en ce moment,
il y a un petit peu de monde,
voilà,
là,
il y a des touristes qui passent, voilà. Donc elle est allée tout de suite leur dire où il y a des enregistrements. Ouais. Voilà, mais écoutez, merci chers auditeurs de nous avoir écoutés au sein du château de Sennevières. Au revoir, Patrick.
Au revoir, merci beaucoup.
Au revoir, Marie-Madeleine.
Au revoir à tous.